Question d'islam par Ghalib Benchi. Aujourd'hui, nous avons un entretien et une conversation avec le sociologue Homero Marungio Peria. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, Homero Marungio. Vous êtes docteur en sociologie. En réalité, vous êtes sociologue des religions et vous êtes chercheur associé à l'IPRA, l'Institut de recherche sur le pluralisme religieux et l'athéisme. Et l'actualité, la vôtre, est celle de deux ouvrages. J'ai la faiblesse de croire, et sans flagornerie aucune, que ce sont deux ouvrages importants qui ouvriront le débat. Le premier, en réalité, est une sorte de vade-mecum, hein, en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans. Vous avez mis en avant 80 points fondamentaux sur ces idées préconçues. Mais le deuxième, je ne dirais pas second, comme ça il y aura au moins un troisième, vous l'avez intitulé « Rouvrir les portes de l'islam », allusion faite à cette réouverture des portes de l'ijtihad, encore faut-il qu'elles fussent fermées un jour. Et il y a un article intitulé, paru dans Studia Islamica, intitulé « Petite genèse d'une grande fiction », qui consiste à dire qu'on n'a jamais trouvé ni une autorité, ni politique ou religieuse qui eût proclamé la fermeture des portes de l'ijtihad, l'ijtihad étant cette réflexion intellectuelle, cérébrale, d'interprétation et de recherche en ce qui concerne les questions islamiques tout particulièrement. Alors le premier, En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans, est édité aux éditions de l'Atelier, et le deuxième aux éditions Atlante. Pour parler du premier, qu'est-ce qui vous a motivé, Homero Marungio, à écrire cet ouvrage, En finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans? C'est une contribution de votre part au débat actuel?
C'est une discussion avec Bernard Stéphan, le directeur des éditions de l'Atelier, qui fut très intéressante. Il y a à peu près un an et demi de cela, nous avons fait le tour de différents champs d'investigation et j'avais à cœur d'offrir, alors à défaut d'offrir des réponses, d'offrir au moins un cadre de débat. C'est ça mon approche. Il y a 82 questions qui sont posées. Il y a certains poncifs qui consistent à dire que le musulman est violent, le musulman n'est pas quelqu'un qui traite sa femme avec correction, etc. etc. Mais il y a des questions un peu plus sensibles sur les droits de l'homme, sur la liberté de conscience dans l'islam contemporain. Et j'avais à cœur de proposer un cadre qui croise trois dimensions, en fait. C'est de la théologie, bien entendu, c'est de l'histoire et c'est de la sociologie. L'islam ne se réduit pas à un code civil, à un code normatif. L'islam, c'est une vaste civilisation, c'est toute une histoire. Et j'ai voulu restituer un peu cette trame de fond pour offrir au lecteur au moins quelques clés de lecture.
Oui, vous aussi, vous distinguez, selon la typographie désormais classique, l'islam écrit avec petit i et l'islam écrit avec i majuscule. Quand la lettre i minuscule initiale renvoie à l'édifice cultuel, religieux, spirituel même, et la pratique en tant que telle, et quand il y a la majuscule, ça renvoie à la vaste civilisation, à la fois du point de vue de l'ère A-I-R-E géographique et sur une longue ère E-R-E historique.
Tout à fait.
Alors, ce qui m'avait frappé, et j'ai trouvé ça d'une grande justesse, c'est que avec les questions, ces stéréotypes, ces préjugés, ces poncifs et lieux communs, vous répondez, quand vous posez la question, faux, vrai, et dans certains cas, pas si simple. Et ce sont les questions où vous répondez pas si simple, donc on n'arrive pas à trancher, et vous donnez les deux aspects.
Oui, et puis vous savez, chaque auteur est orienté également. J'assume une position dans le livre. Je fais des choix par exemple, sur les questions relatives au rapport aux non-musulmans et puis les débats contemporains qui traversent les sociétés musulmanes sur la liberté religieuse, le droit de changer de religion ou pas, etc. Je fais des choix interprétatifs aussi pour pousser mes co-religionnaires, dont certains ont des fonctions religieuses, certains sont théologiens, les pousser à être un peu plus précis lorsqu'ils prennent une parole publique pour condamner de manière expresse ou en tout cas se démarquer de manière claire de ce que j'appelle la charia médiévale qui a été produite dans un contexte de domination. On se pensait en domination ou en soumission par rapport à l'autre et pour ancrer justement le discours de l'islam dans les valeurs de la société contemporaine. Alors ces valeurs, je ne me restreins pas ici à la culture, bien entendu, je parle vraiment des valeurs liées aux droits de l'homme telles qu'ils ont été promulguées dans les sociétés contemporaines.
Voilà qui nous amène cette fois-ci à votre deuxième ouvrage, paru chez Atlante, « Rouvrir les portes de l'islam ». Et là, ce qui nous frappe d'emblée, c'est cette notion du paradigme hégémonique de la charia.
Ça fait plusieurs années que j'emploie ce terme et j'avais l'ambition d'écrire un long article qui pourrait expliciter ce que j'entendais par là. Et ce livre a une petite histoire. C'est également une discussion à l'origine avec Philippe Lemarchand, le directeur des éditions Atlante, qui m'avait sollicité pour écrire un ouvrage sur le Coran. Et au mois d'août de l'an dernier, je me suis mis sur 8 jours à peu près à rédiger un article à la base qui pourrait expliciter ce paradigme hégémonique à travers la question de l'esclavage. Et lorsque j'ai passé les 40 pages, mon épouse a eu la bonne idée de me dire « continue à écrire ». Et c'est devenu un ouvrage dans lequel je prends appui sur le discours de Daesh qui revendique la bonne lecture de l'islam et l'on sait que ce groupe commet tout un ensemble d'exactions et il a réduit des populations en esclavage. Et j'étais un peu agacé lorsque j'entendais que Daesh était une expression, je dirais, paroxystique du wahhabisme. Alors que dans ses références doctrinales, il puise directement à toutes les références de la charia médiévale, toutes écoles juridiques confondues. Et donc j'ai pris appui sur les références doctrinales de Daesh pour justement mettre en évidence que nous sommes dans une situation très problématique de permanence de dispositions qui ont traversé tout le Moyen-Âge et qui perdurent encore aujourd'hui et qui sont enseignées dans les universités musulmanes. C'est ça qui est très problématique. Par exemple, j'analyse tout un ensemble d'ouvrages contemporains qui mentionnent toujours les dispositions de l'esclavage. Et puis parfois, on trouve des notes de bas de page où il est dit que ces mentions sur l'esclavage sont là à titre historique, parfois pas du tout. De vastes encyclopédies musulmanes continuent à mentionner également ces dispositions, ce qui est très problématique.
Oui. Alors, ce que j'en retiens, c'est qu'avant tout, nous savons tous gré à Madame Marangiot de vous avoir encouragé à poursuivre votre article, auquel cas il est devenu un ouvrage de la plus haute importance. Le deuxième point, c'est que le discours de cette monstruosité idéologique et religieuse qu'on nomme Daesh finalement s'appuie aussi sur des références scripturaires, fussent-elles éculées, archaïques, obscurantistes, passéistes et rétrogrades, mais elles existent et il faudrait le dire et vous avez le courage. Et le troisième point, c'est que vous le faites comme musulman. Et donc, vous adressez aussi dans votre production à vos co-religionnaires, mais à quiconque voudrait bien lire. Et vous commencez dans l'ouvrage intitulé « Rouvrir les portes de l'islam » que finalement, ce n'est pas tant le Coran qui est le problème.
Oui, tout à fait. C'est pour préciser le fait que, bon, tout d'abord, je ne suis pas codicologue, hein, selon le jargon qui est utilisé aujourd'hui par les spécialistes du texte coranique. Et je pense que le problème qui se pose n'est pas la part de violence que peut contenir le texte, puisqu'il y a d'autres textes religieux, si je m'en tiens à la Bible, qui possèdent également une part de passages violents, mais ce sont les interprétations. Moi, je travaille sur la normativité, c'est-à-dire comment des individus, théologiens en l'occurrence, avec le sous-ensemble des juristes musulmans, produisent le sens. Et je pars de la fameuse distinction que Mohamed Harkoun avait faite entre le texte et puis le lecteur du texte, les interprétations du texte, et puis ce que l'on va en extraire comme norme. Et je considère que le texte ne parle pas d'emblée, c'est le lecteur qui le fait parler.
Donc, selon la formule de Ali ibn Abi Talib, le quatrième calife.
Que je cite d'ailleurs dans le premier ouvrage.
J'ai vu ça, le Coran ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler.
Et je pense que c'est très important de mentionner cela dans un moment où des intellectuels, des hommes politiques se permettent de faire des exégèses aussi sauvages du texte de l'islam en proclamant que le Coran pousse forcément le musulman à être quelqu'un de violent. Or, des musulmans souffrent aussi d'exactions qui sont commises et parfois aussi, malheureusement, des pouvoirs politiques occidentaux peuvent s'accommoder de pouvoirs politiques en pays d'islam qui instrumentalisent le texte religieux à des fins de réduire les populations dans un état de soumission totale en empêchant le pluralisme de s'exprimer. Moi, je ne travaille pas directement là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est cette production normative et comment on en arrive à figer une lecture et comment cette lecture traverse les âges. C'est ça qui est très problématique. Et pour illustrer mon propos, j'ai pris, comme vous le savez, il existe dans les différentes écoles juridiques musulmanes les fameuses tabaqat, c'est-à-dire les générations.
Des classes ou des générations.
Oui. Générations d'ouvrages, d'auteurs de référence. Et j'ai été voir, est-ce que à partir du haut Moyen-Âge, donc quand les premiers ouvrages ont été élaborés, est-ce que ce fameux paradigme hégémonique continue à s'exprimer jusqu'aux ouvrages contemporains? Et je peux vous dire que parfois ça a été très dur psychologiquement, parce que quand vous lisez dans des exégèses coraniques contemporaines qu'une société musulmane a besoin de l'esclavage pour garantir les bonnes mœurs des hommes, là vraiment ça fait peur.
Oui, alors, donc vous mettez ce paradigme hégémonique en question et vous dites que la charia contemporaine est prisonnière de ce paradigme-là.
Et j'irai même un peu plus loin, c'est une forte tension entre la persistance donc d'une charia, si je puis ici isoler ce mot de manière spécifique.
Ou même dans son sens étymologique, peut-être.
Mais dans les pays d'islam, on a bien à la fois un droit positif, donc avec des lois qui ne sont pas forcément directement puisées au Coran, et puis une charia qui est enseignée dans les universités musulmanes, qui n'est pas mise en application directement. Qui n'est plus mise en application tel que c'était le cas auparavant. Et malgré cela, en tout cas cette charia plutôt, est passée de ce que j'appelle du stade de la probabilité de sa mise en œuvre au stade de sa mise en œuvre effective par des individus ou par des groupes qui se réclament de la lecture authentique de l'islam. Donc de ce fait-là, vous avez des pays, par exemple, en terre d'islam, où le droit positif offre une liberté religieuse, et vous avez des groupes fondamentalistes, dans lequel je mets le sous-ensemble islamiste, puisque l'islamisme contemporain est une forme de fondamentalisme pour moi, qui font pression pour justement réintroduire des dispositions, et à chaque fois ce sont les mêmes types de dispositions: limiter la mixité, limiter la possibilité de vie sociale de la femme, limiter la liberté du non-musulman et réduire la pluralité des sociétés à la portion congrue.
Alors là aussi, le fait que la charia contemporaine soit prisonnière du paradigme hégémonique Et c'est problématique que ceci soit enseigné même au niveau universitaire. Nous verrons comment vous préconisez quelques pistes de sortie de cette crise. Continuant à dresser ce tableau qui apparaît problématique et inquiétant, vous dites que même ça est diffusé en français et particulièrement en France.
Ah, vous savez, quand je me suis converti à l'islam, c'était en 1987. Et l'un des tout premiers ouvrages que j'ai eu entre les mains, c'était intitulé « La voix du musulman »,« Minhaj al-Muslim », qui a été rédigé par un théologien algérien qui a longtemps résidé en Arabie Saoudite, Abou Bakr al-Jazairi.
Jaber al-Jazairi.
Et à l'époque, pour nous, c'était quasiment la seule littérature disponible. Au fur et à mesure que je lisais cet ouvrage, il y avait des passages qui ne m'intéressaient pas tellement, mais qui ne m'avaient pas plus interpellé que cela. Et l'âge avançant, en reprenant ce type d'ouvrage, on trouve qu'en fait, il contient tout un ensemble de dispositions de la charia qui contreviennent, mais complètement, aux chartes et aux dispositions relatives aux droits de l'homme. Et ça va plus loin que cela, puisqu'il y a un chapitre complet qui est dédié à l'esclavage dans cet ouvrage. Et donc, en faisant des recherches, je me suis aperçu que finalement, l'Arabie Saoudite a aboli officiellement l'esclavage au début des années 1960, et que dans certains pays d'islam, cette problématique est encore très vivace, notamment, c'est le cas de la Mauritanie, dans le conflit au Soudan, des populations ont été réduites également en esclavage, puis est venu bien entendu ce groupe Daesh qui est passé à l'échelle un peu industrielle à ce niveau-là. Donc la littérature francophone est directement impactée sous deux angles. Le premier angle, c'est le fait des traductions. On traduit des ouvrages de l'arabe au français sans mettre de notes de bas de page, voire sans mettre aucun filtre, ne serait-ce que des filtres sémantiques. Et le deuxième aspect, ce sont des rédacteurs d'ouvrages, donc des auteurs, qui vont écrire des ouvrages donc surtout orientés dans le droit, et qui, par souci de ce que j'appelle la sacralisation prohibitive, donc on sacralise des textes anciens, on sacralise des auteurs anciens, ils ne prennent pas la précaution de mentionner, voire en bas de page, voire de supprimer les passages qui contreviennent directement aux dispositions des droits de l'homme.
Ou du moins les critiquer, en les fustigeant s'il le faut ou pas, mais avoir comme guide de lecture et guide de vie le respect absolu, scrupuleux de la dignité humaine, tant au niveau de l'intégrité physique que morale. C'est curieux. Alors, pour vous, l'explication, c'est le fait d'avoir sacralisé ce qui est in fine une œuvre humaine.
Il y a différents aspects que l'on peut mettre en évidence. Tout d'abord, il y a un aspect théologique à proprement parler. Si l'on prend les deux grandes écoles de théologie, donc l'école théologique dominante chez les musulmans et la théologie acharite, et
du nom de son maître éponyme,
oui, Abou al-Hassan al-Ash'ari. Et puis nous avons une autre école de théologie qui est considérée comme hétérodoxe, mais qui a été la matrice de l'école rationaliste musulmane, donc l'école mu'tazilite. Ces deux écoles de théologie ont bâti une vision spécifique de Dieu. Donc, on a chez les Mu'tazilites la justice divine, et on a chez les Ash'arites la puissance de Dieu. Alors, dans les deux cas, qui va s'exprimer par une forme de domination de Dieu sur le monde. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles conséquences pratiques cela a pu avoir dans la manière de penser la société, de penser le monde. Et je pense qu'on peut commencer à établir ce type de relation avec la production d'une vision du monde qui consiste à dire que le musulman doit dominer, donc par extension, l'ère civilisationnelle musulmane doit dominer, mais si on ramène ça à la logique d'un État, c'est l'État qui doit dominer, et j'ai travaillé ça sur différents plans. Donc, le rapport de Dieu au monde, le rapport du musulman au monde, le rapport du musulman au non-musulman, les rapports hommes-femmes, Hein, donc ça fait 4 et le cinquième, excusez-moi, il ne me vient pas directement à l'esprit, mais j'ai travaillé cela comme ça sur différents plans et j'ai pris la question
peut-être
de l'esclavage,
l'altérité confessionnelle,
la pluralité religieuse effectivement, et j'ai pris la question de l'esclavage comme une illustration la plus problématique, la plus épineuse, parce qu'on pourrait se dire, comme le font beaucoup de leaders religieux musulmans, quand je discute avec eux, ils disent mais l'islam a aboli l'esclavage. Le Coran est venu avec des dispositions qui abolissent l'esclavage. Oui, certes, on peut avoir une lecture orientée du Coran, hein, ce que on pourrait appeler le vecteur orienté, pour reprendre l'expression du penseur Mohamed Talbi, qui donc tend vers l'abolition de l'esclavage.
La fameuse lecture vectrice, vectorielle,
voilà,
finaliste.
Où on va prendre justement une orientation et on va considérer que le texte tend vers cette orientation. On peut tout à fait le faire. Il n'en demeure pas moins que la charia a édicté des dispositions qui ont permis de pérenniser, voire de développer l'esclavage, puisque des premiers ouvrages de droit musulman jusque le XVIIIe siècle, on prend un ouvrage de droit comparé comme Nail al-Awtar, donc de l'imam Ash-Shawkani, donc qui était yéménite, où on a exactement les mêmes dispositions que celles qui sont édictées dans la charia médiévale. Et on va jusqu'au XXe siècle où les ouvrages de droit musulman, donc ici je ne parle pas du droit positif, je parle bien des ouvrages qui reprennent les dispositions de la charia, continuent à faire perdurer ces dispositions, charge à l'enseignant peut-être d'avoir une lecture critique de ces dispositions. Et j'ai repris notamment l'ouvrage qui est très diffusé dans le monde musulman de Wahab az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, le droit musulman et ses...
Ou la jurisprudence islamique et ses preuves.
Et ses preuves, où on trouve encore une quarantaine d'entrées sur l'esclavage, avec toute la sémantique sur l'esclave homme, femme, l'enfant, etc., et toutes les dispositions qui permettent d'affranchir les esclaves. Et à un moment, il mentionne qu'il a laissé ces dispositions à titre historique, mais il le mentionne de manière très très subreptice, si je puis dire, dans son ouvrage. Et donc les auteurs du monde francophone qui ne prennent pas de recul critique par rapport à ces dispositions, tout en diffusant des discours selon lesquels l'islam a aboli l'esclavage, sont dans une contradiction totale en fait.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Homero Marungio Peria. Homero Mahongio, vous êtes sociologue, sociologue des religions, spécialiste de l'islam français. Je ne vous dirai pas que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition, mais vous, vous avez une connaissance étendue de l'islam particulièrement français, mais au-delà. J'ajoute pour nos amis auditeurs que vous êtes passé par la mouvance des frères musulmans. Toutefois, vous en êtes sorti, heureusement pour nous tous, et vous êtes aujourd'hui un pilier du courant réformiste dans l'islam de France. Dans la première phase de notre entretien, vous avez parlé, et nous aurons à nous y appesantir, du paradigme hégémonique de la charia. Vous l'illustrez par le cas de l'esclavage. Tout en vous écoutant, ma question est-ce que c'est, si vous me pardonnez cette fois-ci le terme germanophone, c'est une Weltanschauung, c'est une vision du monde qu'il faudrait revoir et déconstruire, et c'est une approche finalement des textes qui sont calcifiés, sclérosés, cryogénisés même, et qu'il faut dégeler, ou est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque cette fois-ci à une théologie islamique?
Lorsque j'interviens sur cette question, je dis plusieurs choses. Tout d'abord, les politologues ont l'habitude de faire des typologies, ce qui facilite la compréhension de la diversité musulmane. Par exemple, ils vont vous dire qu'il y a des islamistes, il y a des groupes fondamentalistes apolitiques, il y a des groupes soufis, etc. Moi, je pense que si l'on remonte d'un cran, cette diversité, mis à part peut-être des courants soufis que l'on pourrait qualifier de très libres vis-à-vis de l'orthodoxie musulmane, toutes ces sensibilités musulmanes finalement s'inscrivent dans le même paradigme. C'est-à-dire qu'à la base, l'idée selon laquelle l'islamisme contemporain et notamment les frères musulmans a été le prolongement du réformisme des réformateurs du 19e siècle, je pense notamment à Mohamed Abdou, qui était un moufti égyptien et qui a réellement impulsé une idée de réforme dans l'islam contemporain.
Il est mort en 1905.
Tout début du 20e siècle. Les mouvements islamistes ne sont pas du tout la continuité de ce réformisme du 19e siècle. Aucun spécialiste ne peut affirmer une chose pareille. Ça a été l'objet de la thèse de doctorat d'un prédicateur musulman qui est également islamologue, qui a voulu opérer cette continuité, mais je pense que l'exercice n'a pas du tout été réussi. Ça, c'est une première chose. Par contre, il est très intéressant de repartir jusqu'au début du 19e siècle et de voir comment les autorités de la grande université d'Al-Azhar au Caire ont impulsé ce mouvement de réforme. Et je pense que nous étions dans la continuité des réformes opérées, ou en tout cas, certaines ont même été des prémices de réformes au sein de l'Empire ottoman. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une véritable sacralisation du patrimoine qui empêche tout recul critique. Et je vais vous donner un exemple très illustratif de cela. L'an dernier, j'avais mis sur un réseau social la traduction de deux petits passages d'exégèse coranique, la première étant de Fakhreddin al-Razi, un grand théologien du Moyen-Âge.
Et un grand exégète.
Et grand exégète, et la deuxième était un passage de l'exégèse de al-Qurtubi, également grand exégète et grand connaisseur de la doctrine juridique malikite. Sauf que j'ai repris le fameux passage qui mentionne que Dieu a fait en sorte, un passage coranique qui mentionne que Dieu a fait en sorte que l'homme trouve le repos auprès de son épouse, mais les exégètes du Moyen-Âge ont interprété cela dans le sens où la femme est au service complet de l'homme, voire chez certains, la femme fait partie du patrimoine de l'homme.
Des biens transmissibles même.
J'avais un peu de vergogne à utiliser ce terme, mais vous me permettez de m'engouffrer dans la brèche.
Oui, mais avec le respect absolu et scrupuleux que nous avons pour la dignité humaine dans sa composante féminine, mais hélas, des interprétations comme ça sont courantes même de nos jours, alors que le passage, je le dis sous votre autorité, sous votre contrôle, ne dit rien d'autre que vous y trouvez sérénité, tranquillité, repos auprès de vos épouses.
Tout à fait, et on pourrait même traduire, puisque le terme « zaouj » est indistinct en, en langue arabe, donc
sens.
On pourrait le dire de la même sorte, c'est le même terme qui est utilisé pour dire « époux » et « épouse ». Or, les exégètes ont orienté complètement l'interprétation au service exclusif de l'homme. Et j'avais mentionné quand même que pour avoir ce type d'interprétation, il faut être situé justement dans ce paradigme que j'ai évoqué précédemment. Et je me suis fait agresser verbalement par des personnes qui, outre le fait de dénigrer ma personnalité, dans le sens où, vous savez, c'est toujours un peu la même chose. Tu es qui? Tu prétends être qui pour remettre en cause des personnages aussi importants que ceux que tu cites? Ce qui était très problématique, c'est la façon dont ces personnes étaient posées comme des êtres sacrés. Quasiment thaumaturge, si je pourrais employer cette expression, c'est-à-dire des êtres qui
faiseurs de miracles.
Voilà, qui reçoivent une bénédiction divine et dont les écrits sont quasiment des miracles pour les musulmans. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que ça empêche toute discussion critique sur le patrimoine. Donc moi, mon travail est un travail de vulgarisateur et un travail de mise en débat. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut aujourd'hui médiatisé, puisque certains de mes co-religionnaires me disent « Homero, tu fais le jeu des islamophobes, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'aversion pour la religion musulmane, parce que tu leur donnes du grain à moudre. » Et moi je leur dis « Mais depuis quand doit-on discuter en catimini, en aparté, des questions relatives à la religion ? Cette religion est l'objet d'un débat dans les sociétés contemporaines et il faut, de mon point de vue, il faut opérer une rupture symbolique avec l'héritage du passé. Non pas le renier, je ne dis pas cela, mais poser une critique claire pour passer à autre chose, c'est-à-dire être en capacité d'élaborer une orientation fondamentale de l'islam contemporain qui épouse les contours de la modernité. Et je ne dis pas cela dans le sens d'occidentaliser la religion, puisque c'est la première critique qui est faite dès qu'on parle de modernité.
Mais ça n'a pas beaucoup de sens non plus.
Oui, moi je parle vraiment au plan du droit, de la liberté, du respect, de l'intégrité de chaque individu.
Oui, Homero Mahoundio, ma question... Pardon d'y revenir encore une fois. Est-ce que cela est dû à la pusillanimité, la frilosité, le manque d'audace intellectuelle, à une fragilité psychologique, à une quelconque mentalité obsidionale, parce qu'on serait assiégé, donc on n'aborde pas ces questions-là? Pourtant, quelqu'un comme Abu Hanifa, le premier maître éponyme, mort en 707, disait à propos de ses maîtres et de ses prédécesseurs, ils furent des hommes et nous sommes des hommes. Donc ce qui a été fait, produit, édicté par des hommes est soumis à critique et à débat. On peut l'ingérer et l'appliquer comme on peut le dépasser. Pourquoi, encore une fois, il y a cette résistance? Pourquoi étant rétif et réfractaire, au moins ouvrir le débat? Ce qui est votre mérite à vous, c'est d'en parler d'une manière calme, sereine, déterminée aussi et intelligente.
Je pense qu'on peut déceler les points de rupture qui ont été opérés entre le réformisme du XIXe siècle et la véritable sclérose intellectuelle à laquelle on a assisté tout au long du XXe siècle. Pour faire très simple et très court pour les auditeurs, je citerai un personnage qui s'appelle Mohammed al-Bahi, qui a été donc une figure majeure de l'université d'Al-Azhar au début du XXe siècle. Et Mohammed al-Bahi va être le principal instigateur de la réorientation des études à l'université d'Al-Azhar. Et en 1947, il publie son ouvrage consacré à l'Occident et l'Islam, dans lequel il fustige, dans des propos très acerbes, l'Occident. Donc l'Occident inquisiteur, l'Occident qui veut dominer le monde, etc. Et c'est lui qui va vraiment systématiser cette idée que pour que l'islam puisse à nouveau retrouver son heure de gloire, il faut se séparer de l'Occident et de l'occidentalisation. Et vous avez toute une génération de théologiens qui vont venir par la suite, notamment ceux que l'on connaît aujourd'hui dans le monde musulman, tels que Cheikh Al-Qaradawi, le fameux Youssef Al-Qaradawi, théologien égyptien qui réside au Qatar depuis de nombreuses années. Toutes ces générations de théologiens qui vont venir par la suite vont tous s'abreuver à cette même source. Donc on a déjà cette problématique du rapport non apaisé à l'Occident. Et je cite l'exemple très précis de la façon dont Qaradawi, dans ses écrits, reprend textuellement l'approche de Mohamed Al-Bahi. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les musulmans, dans l'intra-religieux, ne laisse pas émerger les courants qui pourraient permettre justement de faire évoluer les interprétations de l'islam et puis également de renouer avec toute cette tradition philosophique. Et paradoxalement, c'est dans l'islam chiite que l'on trouve, on va dire, la persistance d'une tradition philosophique qui est de très bonne facture. Mais dès que l'on cite
qui
des auteurs...
jusqu'à la gnose ismaélienne,
tout à fait.
La philosophie ishraqie, enfin orientale...
Tout à fait, de langue persane, etc. Et dès que l'on cite des auteurs issus du monde chiite, on est littéralement fustigé par les musulmans d'obédience sunnite. Alors, je vais corriger mon propos, non pas par tous les musulmans d'obédience sunnite, mais par les leaders religieux, qui vous accusent très très rapidement d'être un chiite. Et ce qui était très amusant, c'est qu'en 2015, une expression a été forgée par certains leaders religieux sunnites francophones, qui est le crypto-chiisme. Oui. Donc, moi-même et d'autres qui prônaient une réforme dans l'islam, je pense que vous vous souvenez très bien de cet épisode, Raleb, avons été critiqués comme étant des crypto-chiites, c'est-à-dire des gens qui cachaient leur appartenance au chiisme, ou alors qui étaient chiites à l'insu de leur plein gré. Donc ça, c'est un second problème. Et le troisième problème, c'est une carence intellectuelle. Il ne faut pas avoir peur de le dire. J'ai eu des discussions avec des amis qui sont dans des comités d'éthique médicaux et autres. Et objectivement parlant, ils ne trouvent pas de référent religieux musulman en capacité de siéger dans ce type de comité, car... en général, les gens qui se destinent aux études islamiques deviennent quelque part de très bons érudits dans leur capacité à restituer un patrimoine, mais comme ils n'étudient pas les sciences humaines parallèlement à cela, et en particulier la philosophie, la sociologie, ils ne sont pas en capacité d'avoir un discours intelligible, voire même de comprendre les problématiques qui sont soulevées. Et ça, je pense qu'il ne faut pas avoir de honte à dire qu'il y a un déficit intellectuel et qu'il faut au fur et à mesure le résorber en réintroduisant des éléments là aussi du patrimoine. C'est-à-dire, par exemple, il n'est pas normal que dans une université musulmane ou dans un institut d'études supérieures musulmans, on n'étudie pas des auteurs du type Al-Miskaway avec son traité d'éthique ou Al-Farabi, Al-Tawahidi, etc. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il faut réintroduire cette partie du patrimoine. C'est dans ce sens que je parle de rupture avec les anciens.
Oui. Alors pour les auditeurs, vous avez cité au moins trois humanistes, on ne leur trouve pas d'autres qualificatifs, ou en tout cas ceux qui étaient pour l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, et cet humanisme-là est oblitéré, effacé des mémoires, et auquel cas il faudrait renouer avec cette rupture que vous préconisez. Homero Marongio, si vous permettez, je voudrais revenir sur les trois points très brièvement. Le premier... Et donc, pour l'explication que vous en donnez, c'est cette réorientation effectuée par le recteur de l'université à Lazare dans les années 40 et notamment 47 pour donner une autre vision, une autre approche au réformisme, notamment celui de Mohamed Abdou, avec ce discours anti-occidental. Et le deuxième point, c'est une lecture et une approche fustigeant ceux qui tiennent à parler de réformes comme étant des crypto-chiites. Et la question, mais en quoi ceci est attentatoire et à la dignité humaine et aussi au débat et à la réflexion. Et le dernier point, vous avez évoqué
le déficit intellectuel.
Et donc, il faut rattraper ce que nous appelons maintenant la séquence moment Descartes, moment Freud, qui a été totalement ratée. Et qu'il faut savoir aussi se réapproprier, la critiquer, l'ingérer, la dépasser et produire avec un investissement intellectuel des choses qui aillent de pair avec les exigences de notre temps.
Et sans velléité, moi mon parti pris est celui du dialogue. Quand je parle de déficit intellectuel, vous savez, moi je suis d'une génération d'étudiants en sociologie, donc de post-68, où à un certain moment, on voyait bien par rapport à nos professeurs, j'étais à l'université de Lille à la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, et on voyait bien que nos professeurs les plus anciens avaient un bagage philosophique très aguerri, et on sentait qu'il nous manquait des clés de lecture sur certains aspects, alors déjà de l'épistémologie, de la discipline, de son évolution, etc. Et moi, j'ai essayé de combler cette carence. Ce n'est pas faire de l'autoflagellation ou du dénigrement systématique, mais simplement de poser une problématique. Après, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de philosophe chez les musulmans dans l'islam contemporain, ou que tous les leaders religieux sont incapables d'avoir un discours ancré dans la modernité. Simplement, quand on voit la masse des discours qui sont diffusés, j'ai fait quelques expériences en allant sur le moteur de recherche principalement utilisé aujourd'hui de par le monde. Vous tapez quelques mots-clés, islam femme, islam droit de l'homme, islam ceci ou islam cela, et vous tombez quasi systématiquement dans les premiers sites sur des sites de type salafiste ou islamiste. Et ça, c'est très problématique parce que le discours est déjà orienté et les questions contemporaines sont traitées à la lumière des références médiévales sans contextualisation. C'est-à-dire, aujourd'hui, parler d'avortement, parler de questions de bioéthique, etc., en allant puiser chez un auteur du XIIe siècle, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut le faire. Mais ensuite, il faut contextualiser à la lumière de la réalité de la société contemporaine et des enjeux des individus dans le monde contemporain. Si on reprend un avis d'un théologien, à savoir s'il était médecin ou pas d'ailleurs...
Aussi souvent dans ce cas-là, Ibn Qayyim al-Jawziya, ce qui est étonnant.
Oui, tout à fait. Quand on voit dans les textes malikites qu'une femme peut rester enceinte pendant 4 ans, objectivement parlant... On ne peut pas se baser sur ce type d'approche pour résoudre des questions contemporaines. Ce sont des amorces, mais après, il faut passer à autre chose.
Avec la logique qui sous-tend cet avis saugrenu, qui est la dormition du bébé dans le ventre de sa mère. Voilà le type de billevesée et de fadaise auquel on peut arriver quand on laisse place à ce genre de choses sans vouloir les discuter, en tout cas les broyer par la machine de l'entendement, comme on le dit. Homero Marangio, j'ai deux questions à vous poser. La première est relative à ce fameux réformisme à la charnière 19e-20e siècle. Pourquoi n'a-t-il pas abouti ? D'aucuns diront parce que la raison religieuse était là. Parfois, on ajoute raison religieuse dévote. D'autres disent qu'il y avait une sorte de rationalité fermée parce qu'on a soumis cette religion à la révélation. Et donc, au lieu de raisonner religion dans les limites de la raison, on a fait l'inverse. Donc c'est une question à laquelle pour laquelle je sollicite votre sagacité. Et l'autre question, c'est que vous préconisez, pour sortir de ce paradigme hégémonique, la rupture avec la fidélité aveugle aux anciens. Donc c'est le salafisme, in fine. En finir avec le salafisme.
Même, je vais même plus loin que cela. Quand je parle de rompre avec la fidélité aveugle aux anciens, c'est qu'il faut définitivement entériner la part historique de cette religion et de la production de sens sur cette religion. Toutes écoles théologiques et juridiques rassemblées. Donc je ne dis pas cela pour jeter le bébé avec l'eau du bain, bien entendu. Je ne dis pas qu'il faut rejeter tout le patrimoine historique, exégétique, etc. Ce n'est pas le sens de mon propos. Simplement, je pense qu'il faut une vraie rupture symbolique qui dépasse le simple discours sur le salafisme. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de leaders religieux musulmans s'accommodent d'un discours qui consiste à dire que le wahhabisme est la grande plaie et le grand problème de l'islam contemporain. Moi, je pense que non. Non, le wahhabisme est illustratif d'une situation globale que vit l'islam contemporain. Il est un symptôme, il n'est pas la cause du malaise profond qui traverse cette religion aujourd'hui. Alors, et justement, ça nous ramène à votre première question, qui est celle justement des ruptures entre le réformisme du 19e siècle et ce qui se passera par la suite. Alors, déjà, le début du XXe siècle est ce que je pourrais appeler ici, par pragmatisme rapide, le passage de personnages qui étaient plutôt isolés pour certains, à de véritables groupes constitués. Et la puissance des groupes islamistes va se décupler lorsqu'ils pourront bénéficier d'une manne d'argent très très importante. Donc ça c'est un premier point. Mais au-delà de cela, il y a une thèse qui a été soutenue il y a quelques années par le chercheur tunisien Mohamed Haddad, qui a très bien démontré, et je vais paraphraser ici mon confrère chercheur Stephen Duarte, qui a eu la gentillesse de m'ouvrir à ce champ de recherche. Mohamed Haddad a très bien démontré dans sa thèse la façon dont un personnage comme Rachid Rida, qui est cité souvent comme le troisième de la trilogie des réformateurs du 19e siècle, donc le premier étant Jamal ed-Din al-Afghani, le deuxième étant Mohamed Abdou et le troisième étant Rachid Rida. Et Rachid Rida va réécrire les textes de, notamment les textes exégétiques de Mohamed Abdou, en enlevant des choses, en réorientant.
En les corsant un peu.
Tout à fait. Donc là, il y a une véritable orientation que l'on qualifierait aujourd'hui de salafiste, de Rachid Rida, c'est-à-dire un retour à la tradition, après une période où des théologiens auront quand même de l'audace. Et je citerai parallèlement, puisqu'il est de la même époque, parallèlement à Rachid Rida, nous avons le théologien tunisien Tahar Haddad, qui écrit au même moment Imra'atuna, notre femme, fi sharia wal mujtama', donc notre femme dans la charia et dans la société, ouvrage dans lequel il ouvre de véritables perspectives d'émancipation pour la femme.
Et qui se situe dans le sillage d'un autre ouvrage datant de 1895, qui est Préoccupation du droit des femmes, d'un théologien algérien, Kamel Belhoudja, Al-Iktirath bi Hukouk al-Inath. Et Tahar Haddad, comme vous dites si bien, en tant que syndicaliste, étonnamment.
Tout à fait, c'est ce que j'allais rajouter en plus.
Et heureusement, en combinant les deux, avait cette préoccupation aussi des droits des femmes dans la société et aussi dans la charia, si on utilise ce terme-là. Nous nous approchons du terme de notre émission, Homero Marangio. J'ai oublié de dire tout à l'heure aussi, comme je le fais à chaque fois, que vous êtes docteur en sociologie et sociologue des religions. religion, comme on dit, spécialiste de l'islam français, et vous êtes chercheur associé à l'IPRA, qui est l'Institut pour le pluralisme religieux et l'athéisme, et vous êtes aussi rattaché aux universités de Nantes et du Mans, et directeur scientifique de l'ICLE. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'ICLE?
ICLE, c'est un acronyme pour le Centre
européen
d'éducation au leadership et à l'entrepreneuriat. Il s'agit d'un institut de formation et de recherche action qui est centré sur le management d'entreprise, puisque j'ai un autre volet dans ma profession qui est celle de formateur en management. Et nous travaillons sur l'accompagnement des publics fragilisés à l'emploi. Donc, nous conduisons toute une expertise dans le domaine du management d'entreprise. Et moi, j'ouvre également le volet, vous vous en douterez, consacré au management de la diversité. Et on a aujourd'hui un grand questionnement sur les identités religieuses telles qu'elles s'expriment dans l'entreprise.
En deux mots, si vous voulez bien, Homero Mahondio, quel message donnez-vous, notamment à ceux qui prennent la parole publiquement sur les questions islamiques? En d'autres lieux, on aurait parlé des gardiens de l'orthodoxie ou des gestionnaires du sacré. Faut-il infléchir un peu leur discours ou en tout cas revoir totalement la facture de leur prêche et de leur sermon?
Bon, je pense qu'il faut tout simplement continuer le travail de critique de notre patrimoine religieux, patrimoine exégétique, patrimoine juridique. Et je pense qu'il faut le faire à tête reposée. J'ai fait un petit exercice dans cet ouvrage que je soumets à la libre critique, bien entendu. Et je pense qu'il faut le faire de manière dépassionnée. Si l'on arrive, entre musulmans, à se parler de manière dépassionnée, à poser ce regard critique, je pense qu'on ira de l'avant très très rapidement. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudra quelques siècles pour que l'islam puisse renouer avec l'universel. Je pense que ça peut se faire très très rapidement.
Ben merci Homero Mahondio Peria. Merci de nous avoir édifiés par vos deux ouvrages. Le premier, dans l'ordre, c'est ce que j'ai appelé un vade-mecum, hein, donc en finir avec les idées fausses sur l'islam et les musulmans, paru aux éditions de l'Atelier. On parle de beaucoup de choses, de la laïcité, du djihad, du halal, du voile, donc les questions épineuses et cruciales et problématiques de nos jours. Et l'autre livre qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus fondamental, c'est « Rouvrir les portes de l'islam ». Cette fois-ci, c'est aux éditions Atland. Et cette fois-ci, je m'adresse à nos chers amis auditrices et auditeurs pour leur dire qu'ils retrouveront en tout cas toutes les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr et que nous étions dans l'émission « Questions d'islam » toujours sur France Culture. L'attachée d'émission Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Claire Levasseur et la réalisation est toujours assurée et bien assumée par l'ami Franck Lilin.
Cabin. Hashem alayich biglal echa.
Der Ruhr kann leben.